Processus. Vous avez entendu l'histoire de Nathaël et Philippe, un processus de conversion qui passe par des étapes. Individualisme, cynisme, pragmatisme, viens voir ces jeunes qui sont du côté de l'Est de la France, viens voir la croix. Et puis dans cet élan pragmatique, tout d'un coup une rencontre, et je trouvais ça étonnant, fascinant de voir les similarités entre l'histoire de Nathanaël, l'histoire de Christelle. On a avec nous un collègue à moi, missiologue Wesley, qui est là, mais je sais qu'il est tellement humble. Wesley, tu as été un des tout premiers en missiologie qui, en Occident, dans la francophonie, a alerté sur la notion de processus de conversion, en disant il y a des itinéraires, et peut-être que la façon dont on témoigne de l'Évangile, c'est peut-être à retravailler sur la forme, dans le sens que il faut donner du temps au temps aussi, il faut comprendre d'où les gens viennent, quel est leur contexte et quel est leur cheminement. Et puis tu en as écrit un livre, Itinéraire de conversion, que tu m'avais offert à l'époque, et puis tu en as fait même un PhD. Et donc en ce sens-là, ouais. Mais tu m'as précédé, donc non, mais en tout cas merci. Merci parce que ça, je crois que ça a décomplexé beaucoup de chrétiens dans le témoignage, ce que tu as fait, tu vois. C'est vrai que souvent, en tant qu'évangéliste, on aime beaucoup raconter des histoires quand on est invité à des séminaires. Et puis alors, si t'es un vrai évangéliste, t'as forcément une histoire de conversion dans un avion. On est parti de Paris, il était cynique, et puis quand on arrive à New York, je l'ai baptisé, quoi, dans les toilettes. Voilà, enfin, c'est là que tu sais que t'as un vrai évangéliste, et puis tout le monde est là, waouh, c'est pas moi. Ouais, ok. En tout cas, ouais, merci Wesley d'avoir ouvert le chemin. On va continuer sur ce chemin de réflexion, sur ce processus qu'est le témoignage, en particulier dans un Québec qui est sécularisé. Alors, moi, j'ai grandi en France. J'ai grandi dans l'Est de la France, avec les 500 autres tarés, là. Et donc, en ce sens-là, c'est vrai que l'Alsace est encore une forme d'exception, je dirais, dans la sécularisation, puisqu'on avait aussi des cours de religion. L'Alsace a un statut particulier qui date de Napoléon. Ce qui fait que, je dirais, ma première vraie découverte de la France sécularisée, ça a été quand on a déménagé en Touraine. En 2004, on est venu déménager en Touraine. Alors la Touraine, c'est une région de la France, là où vous avez les châteaux de la Loire. Et il y avait à la fois de la franc-maçonnerie et il y avait aussi beaucoup d'occultisme, beaucoup de magnétiseurs. Les gens allaient se balader dans les forêts, embrasser les arbres. Il y avait des druides, enfin des choses assez intéressantes. Et quand on a visité le marché de Noël avec ma famille, moi qui viens d'Alsace, les marchés de Noël en Alsace, c'est comme en Suisse, c'est une religion d'État, quoi. Hein, c'est... on allait visiter le marché de Noël à Tours, et il n'y avait pas de sapin de Noël, il n'y avait pas de boule, il n'y avait pas de crèche, il n'y avait rien. On y vendait du vin et du fromage. Et je me souviens que la seule chose qui me disait qu'on était quelque part au marché de Noël, c'était qu'il y avait des cantiques, ou il y avait des, sur le haut-parleur, il y avait des musiques de Noël. D'accord. Mais ça a duré que un Noël, parce que les gens, en fait, ont porté plainte à la mairie en disant que ça, c'était de l'intrusion du religieux sur la place publique, et que ça avait rien à faire sur un marché de Noël. Ce qui fait que la prochaine fois qu'on est retourné, on a quand même mangé du fromage, on a acheté du vin, mais c'était sur une musique brésilienne. Ce qui m'a beaucoup rassuré. Voilà, en tant que laïque. Ma deuxième confrontation avec la sécularisation, ça a été quand je suis venu en 2008 à Québec. Québec fêtait ses 400 ans, et on avait organisé une grande campagne d'évangélisation avec Aujourd'hui l'Espoir, Marcel Perron. On a ensaché 400 000 évangiles de gens qu'on a distribués dans toute la ville de Québec. Et on avait loué un cégep pendant 3 semaines où, en prime time le soir, on était en direct à la télévision. dans une salle de spectacle absolument magnifique. Et il y avait des concerts, il y avait... Je commençais tout juste mon ministère et j'ai eu le privilège de prêcher avec The Cry, les frères Lajoie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était vraiment un groupe emblématique de jeunes Québécois qui sont partis vivre leur aventure et vécu une conversion fantastique en Californie. Et puis ensuite, ils ont continué leur carrière dans la musique, mais tout en alliant le ministère à côté. Et pour préparer une de mes interventions, j'étais allé faire un micro-trottoir. Vous connaissez un peu le concept de micro-trottoir. Vous allez dans la rue et puis vous allez interviewer des gens. Et je me suis dit, je vais faire un jeu avec eux. Et je vais faire le jeu des correspondances. Hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, bon, voilà, si je te dis le mot Paris, à quoi tu penses ? Donc, si je te dis Paris, Alain, tu penses à quoi ? Capitale, Tour Eiffel. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Ok. Si je te dis Bruxelles, tu me dis Belgique. Voilà. D'accord. Donc c'est le jeu des correspondants. Je te dis un mot, tu me dis à quoi tu penses. Ok. Et donc j'avais prévu un petit jeu comme ça avec une dizaine de mots. D'accord. Et dans ces mots, j'avais mis des gros mots comme Dieu, Bible, enfer. Vous voyez des choses comme ça. Église, etc. La première difficulté que j'ai eue, c'était déjà d'attraper des gens. J'ai dit bonjour, ça va? Ouais, salut, ça va? Ouais, écoute, j'avais mon copain qui avait la caméra. Écoute, très rapide, là, j'ai un petit jeu, c'est super sympa. On est chrétien et il est où? Elle est partie. Ok, bon. Salut, allô, ça va? Ouais, tu vois, bon, voilà. Un petit jeu, ça va être sympa. Puis en plus, si tu réponds en dessous d'une minute, on te file un bonbon. C'est pourquoi? Bon, on est un groupement chrétien. Il est où? Il est parti. Pourquoi il est parti? Et au bout de la cinquième fois, le caméraman, qui était un Québécois, il dit « Si j'étais toi, je te ferais pas comme ça. » Je ne parlerai pas trop chrétien, je parlerai plutôt « on est dans le gospel ». On est dans le gospel. Je fais « t'es sûr ?» Essaye donc. Quand j'en vois un autre, je dis « salut toi, ça va ?» Ouais, écoute, t'as un petit jeu, super, tu sais, on est full dans le gospel. « Ah ouais, c'est trop bien le gospel. » Je fais « ok, on en a un, fais tourner la caméra !» Et alors, j'ai dit, c'est un petit jeu, voilà, j'ai dit Paris, Tour Eiffel, ouais, bien, 1-1. Puis ensuite, Bruxelles, frites, église, sombre, ok, ouais, c'est bon, on y est, Saint-Valentin, commercial, ok, la Bible, ouais, c'est un mot aussi, donc on est... Et on a fait ce petit jeu là, et puis j'ai fait un auto-montage. Faudrait que je retrouve. Et je l'ai utilisé dans une de mes prédications pour montrer que finalement, c'est pas parce que tu parles français et que tu utilises des mots qui normalement devraient signifier la même chose pour tout le monde que ça communique les mêmes images. Ça va jusque là? Pour moi, quand je dis Dieu, c'est intime, c'est un père. Pour eux, c'était nuage, éloigné, barbe blanche, existe pas, violence, pas les trucs. Pour moi, le mot église, bon, bah, je sais ce que c'est une église, mais l'image que c'est pour moi l'église, c'est celui de famille, tu vois. Mais eux, c'était sombre, c'était comprend rien. Moche, froid. Oui. Donc on parle la même langue, on utilise les mêmes mots, mais on ne parle pas des mêmes réalités. Tu vois? Et cette expérience à Québec m'a profondément troublé, parce que j'étais quand même pas mal efficace comme évangéliste en France, on va dire. Et là, je me suis trouvé dans un contexte hyper hostile, mais beaucoup plus hostile que la France. Et c'est là que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, et j'ai besoin de locaux pour m'aider à comprendre en fait les clés pour rentrer un petit peu plus dans. Ce que je vous présente là rapidement, ce sont des études qui ont été menées par les GBU aux États-Unis, ça s'appelle InterVarsity, qui se sont posées des questions sur le processus de conversion, un peu comme Wesley, en disant mais comment est-ce que les gens viennent à Christ ? Et j'ai découvert ce qu'ils ont fait il y a à peu près 5 ans, et j'ai commencé à adopter ça et à l'adapter par rapport au milieu francophone, au milieu européen et aussi au milieu canadien francophone. Et j'ai trouvé que ça collait quand même pas mal avec notre réalité. Et puis, je l'ai échangé avec Joël et Cécile quand on s'était vus en juin à Transvision en Suisse. Et ils ont dit, viens et puis raconte-nous un petit peu ce qu'il en est. Donc là, j'ai 30 minutes pour faire ça. Et je vais chercher ma télécommande. OK, je te remercie. Voilà. Donc encore une fois, il réaffirme ce que vous avez entendu ce matin, ce que vous avez lu dans l'histoire de Nathanaël et de Philippe, que vous avez entendu dans l'histoire de Christelle, c'est que la conversion, c'est un processus. D'accord ? C'est un processus qui passe par différentes étapes, qui amène à un point de crise, qui est la conversion, ce qui s'est passé pour toi devant la croix, ce qui s'est passé pour Nathanaël quand il a vu Jésus et qu'il s'est entendu dire... je te vois, je te connais, je t'appelle à de plus grandes choses. Cette crise-là, cette rencontre-là, ouvre la voie à un nouveau processus. Processus, crise, processus. Et ce nouveau processus, c'est la formation de disciples. Ça va ? D'accord ? Et ce qu'on observe, c'est que de plus en plus, en fait, ces processus ne sont pas forcément très linéaires, mais ils se chevauchent quasiment. Ce qui fait que des fois, c'est même compliqué pour les gens aujourd'hui de se dire quand est-ce qu'ils se sont vraiment convertis, parce qu'en fait, il y a eu un moment de crise à un moment donné, mais ça a tout de suite ouvert, si vous êtes béni d'être dans une église qui croit à la formation de disciples, à un autre processus de formation de disciples, de sorte que les deux processus tendent à se joindre, et le point de crise est peut-être plus compliqué, en particulier quand on est nous-mêmes tombés dans une famille chrétienne, évangélique, et on n'a jamais été forcément rebelle. Et puis, des fois, on lit la croix et le poignard, des récits de gars qui étaient des cambrioleurs, et puis qui sont partis en prison, puis ils ont rencontré Jésus, puis toi, tu regardes ta vie, tu dis, ouais, mais moi, j'ai toujours cru en Dieu, quoi. C'est plate, quoi. Moi, quand j'ai grandi, je me suis dit, je vais braquer une banque, et puis je vais rencontrer vraiment Jésus en prison, tu vois. Puis après, je pourrais écrire un bouquin, ça sera sympa, tu vois. Mais je culpabilisais, quoi, tu vois. Ouais, Nicky Cruz, quand même, c'est de la gueule, quoi. Hansenberger, déjà, c'est imprononçable. Bon, bref. Les 5 critères, les 5 seuils de la conversion postmoderne, c'est le résultat de l'étude qu'a fait les GBU aux États-Unis. Et je vais reprendre, grosso modo, le langage qu'ils ont utilisé, mais je vais vous donner des éléments de sociologie, d'anthropologie et de théologie qui sont plutôt francophones. Alors, ils parlent de seuil de conversion. L'idée est la suivante, c'est-à-dire qu'entre ici et en bas, il y a un seuil. Merci. J'ai longtemps réfléchi à celle-là. Je me suis levé ce matin, j'ai dit, tu vas te dire ça, ça va être un moment puissant. C'est-à-dire que vous... Enfin, ici, j'en ai vu 2 qui traînaient dans les escaliers, mais c'est quand même pas la norme, on est d'accord. C'est-à-dire que tu vas de ici à ici. C'est-à-dire que tu passes un moment ici, et après tu redescends pour aller là. D'accord ? Ça va ? Donc, c'est ça l'idée de seuil. C'est-à-dire que dans l'expérience de conversion, il y a des gens qui sont au rez-de-chaussée, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et il monte au premier. Il ne passe pas trop longtemps dans la cage d'escalier, mais en tout cas, il passe d'un seuil à l'autre. Et le truc, c'est que pour qu'il passe au prochain seuil, au deuxième étage, bon, déjà, il faut qu'il sache c'est quoi le deuxième étage, par où ça passe, mais souvent, ils vont camper un certain temps dans ce seuil-là, jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui se passe et boum, il passe à l'autre seuil. D'accord ? Donc, c'est un processus, finalement, par seuil. Donc, c'est pas forcément linéaire, c'est pas un peu du Stephen Jay Gould hein, en anthropologie, c'est des paliers comme ça, des paliers de conversion, on pourrait appeler ça comme ça. Il dit le premier palier qu'on rencontre de manière générale, c'est le palier de la méfiance à la confiance. C'est-à-dire le premier palier, c'est celui de la méfiance. Et la raison pour laquelle je prendrai l'escalier pour monter au prochain seuil, c'est celui de la confiance. de la méfiance. Pourquoi est-ce que les gens, quand je les rencontrais dans le micro-trottoir et je leur disais, ouais, on est des chrétiens, et mais il est où? Pourquoi est-ce que les gens partaient? C'est pas parce que j'étais français, c'est pas parce qu'ils sont racistes vis-à-vis des Français, c'est juste parce qu'ils ont entendu le mot chrétien. D'accord? Et moi, j'ai une image très précise de ce que j'entends quand je suis, moi, je suis chrétien, donc déjà, je suis cool, donc normalement, enfin, je veux dire, c'est cool d'être chrétien, quoi. Sauf que lui, en fait, dans son idée, les chrétiens, bah, c'était des catholiques. Les catholiques, on a goûté, on a vu ce que ça donnait. Non, merci, quoi. D'accord? Donc, il y a une forme de rejet, mais viscéral. Ce que j'ai expérimenté au Québec, hein. Rejet vraiment viscéral. Ça, c'était quand même en 2008. C'est un petit peu moins aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment un rejet viscéral, presque systémique, de tout ce qui était croyance chrétienne, quoi. Mais c'est un peu le cas dans d'autres pays. Je veux dire, en Belgique, c'est pareil, quand vous allez accoster des gens dans la rue parce que vous allez faire de l'évangélisation, parce que votre pasteur vous a forcé à aller faire du porte-à-porte et du tractage. Bon, bah oui, 4 fois sur 5, c'est violent, quoi. C'est-à-dire, on sent qu'on dérange les gens. Et puis moi, pour être très honnête, hein, quand je me balade dans la rue puis je vois des gens avec un sondage, J'ai compris, hein. Je prends la rue à côté, quoi. je le vois venir avec son sondage. J'ai fait, lui, ouais, pas le temps, hein. Et hop, hop. Pourtant, je suis un évangéliste. J'aurais dû saisir l'occasion. Tu vois, lui, il va me vendre l'UNICEF. Et puis, moi, je pourrais lui vendre Jésus, quoi. Mais non, j'ai pas le temps. Et c'est vrai que pour beaucoup, l'évangélisation de rue, c'est agressif. Et puis, ça se fait pas parler des choses de Dieu dans la rue. C'est comme si tu arrêtais les gens dans la rue en disant « Tu gagnes combien ? Tu payes beaucoup d'impôts ?» Tu vois ? Et mais c'est hyper personnel comme question. Tu vois ? Pour les catholiques, c'est toujours très étonnant, les évangéliques, que ça parle de Dieu comme ça, mais comme si tu vendais du Jésus, quoi. Tu vois ? Ça, il y a une approche des fois. Nous dire, vous êtes très commercial, marketing, vous avez un angle d'attaque, quand même. Non, on fait juste des questionnaires en 10 questions avec le jeu des correspondances et tu peux gagner un bon mois après, mais je vois pas du tout de quoi tu parles dans une démarche commerciale. C'est je suis quand même moi-même aussi alerté un peu par rapport à ça. J'ai discuté avec un copain évangéliste à table. On était dans une convention de France Évangélisation, vous voyez, donc c'est tous les nuts de l'évangélisation. Et il y avait un gars qui était assis à notre table et qui écoutait un petit peu. Voilà. Puis quand je suis parti, en fait, Philippe a commencé la conversation. Puis le gars, il s'est approché, il fait « Vous êtes des vendeurs de Jésus, en fait. » J'ai fait « Alors, Philippe, il était embarrassé, tu vois. » Non, viens voir, tu vois. Non, enfin, bon, bref. Mais ça m'a interpellé, ouais. Souvent, la façon dont même on va parler de Jésus de notre foi, hyper décomplexé, ça étonne les gens parce que pour eux c'est de l'ordre de l'intime, vous voyez. C'est comme parler de sexualité ou de tes impôts. Enfin, si on va parler de ça, c'est pas comme ça là dans la rue avec des gens qui écoutent. Il faudrait peut-être. Voilà. Et les études qu'on a faites en fait en France, on a fait des sondages en France et on a dit, ben, voilà, si vous vouliez entendre parler de la foi, comment est-ce que vous voudriez qu'on vous en parle? Eh ben, c'était tout sauf dans la rue, quoi. Ça, c'était ça. Il disait, mais déjà, moi, je vais faire des recherches sur Internet si je suis curieux. Puis deuxièmement, si j'ai besoin d'en parler, ben, je voudrais avoir un collègue avec qui en parler. Pourquoi un collègue? Parce que ce serait quelqu'un que je connaîtrais, et puis avec ça, au moins, j'aurais la confiance, tu vois. C'est étonnant, là. Je viens de recevoir tout juste un texto d'un de mes petits cousins dans les Vosges, Jimmy, qui me dit, je comprends pas, mes filles, tout d'un coup, elles deviennent religieuses, là. Moi, je suis agnostique, je sais pas d'où ça vient, tu peux m'aider, quoi. Pourquoi est-ce qu'il m'envoie un texto? Ben, parce qu'il a confiance. Ouais. Mais lui, ça l'alerte. Ça l'alerte en tant que parent. Et je trouve c'est bien. Qui c'est qui lit le premier paragraphe et un deuxième volontaire qui lit le deuxième paragraphe pour expliquer d'où vient la notion de méfiance? Vas-y. C'est l'histoire de l'âge séculier, ce volume de 850 pages de Charles Taylor que je fais lire à tous mes étudiants qui me haïssent profondément après. Mais de se dire, en fait, nous sommes dans un âge où l'incroyance est le mode de croyance par défaut. Okay. C'est-à-dire les gens aujourd'hui sont convaincus qu'on peut être heureux sans Dieu. C'est pas de l'athéisme. C'est pas de l'athéisme, c'est de l'humanisme autosuffisant. Et lui, Taylor, en fait, qui est canadien, se dit, mais comment est-ce qu'on est passé d'une époque, il y a 500 ans, où le mode de croyance par défaut, c'était la croyance, à une société aujourd'hui qui est sécularisée, dans laquelle le mode de croyance par défaut, c'est l'incroyance. Et donc, il vous retrace l'histoire, en fait, de la sécularisation. C'est absolument passionnant. Tout ça pour dire que c'est vous qui êtes bizarre. Vous êtes vraiment bizarre. Et pour ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne, c'est un vrai choc quand vous arrivez ici. J'ai vécu en Afrique subsaharienne, j'ai vécu au Tchad pendant 2 ans, j'étais encore à Abidjan récemment. Et c'est vrai qu'en Afrique subsaharienne, parler de Dieu, c'est le mode de croyance, par défaut, c'est la croyance. Même si c'est pas le christianisme, vous comprenez. Je veux dire, ça peut être plein de choses. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant de voir la résurgence aussi des croyances ancestrales qui reviennent un peu à la mode. La franc-maçonnerie qui fait vraiment un tabac dans des programmes de master, de doctorat. Et quand on vient d'un contexte comme ça et on atterrit ici, ben c'est hyper violent, quoi. De se dire, on passe d'un contexte où le mode de croyance par défaut c'est la croyance à un contexte où je suis le bizarre. Parce que je crois dans quelque chose qui est transcendant, et parce que je crois profondément que tu ne peux pas être heureux sans croire à cette transcendance-là. Et ce récit-là, c'est un contre-récit total. Un contre-récit total. Maintenant, c'est pas à cause de ça que l'Afrique subsaharienne ne subit pas la sécularisation. Quand j'étais à Abidjan, j'avais des papas pasteurs qui venaient me voir en me disant « Vraiment, dimanche matin, des gens, là, ils se baladent en pyjama avec un chien et il dit ils font du jogging. Pourquoi ils vont pas à l'église ?» J'ai dit, oui, bah, probablement, ils étaient aux États-Unis et ils ont vu que les chiens, c'était pas que pour aller manger les ordures. Et puis, ils ont décidé d'adopter un chien et mettre une laisse et en pyjama. Mais ça s'appelle un jogging quand même, hein, papa. Et c'est comme ça qu'il passe le dimanche matin. Il fait, mais pourquoi? Pourquoi il vient pas à l'église? J'ai dit, oui, c'est l'avènement de l'humanisme autosuffisant. Mais ça vient en Afrique. Et dans les grandes capitales, de plus en plus, et le domaine, enfin, l'idée d'avoir un appartement où tu vives loin de tes parents, pas dans la concession de tes parents, et puis même que tu connaisses pas ton voisin. Ça commence à être des choses qui arrivent. Et le processus de sécularisation, qu'on le veuille ou non, c'est un processus historique qui se passera, mais à des échelles différentes. Deuxième paragraphe de Marc-Olivier Padis, j'aime beaucoup, dans la revue Esprit. Qui c'est qui dit ? Oui, vas-y. Le récit de conversion, c'est une aberration. C'est une aberration. Et donc, quand vous allez, du coup, parler de votre foi avec votre zèle, un peu à la Philippe, et puis que vous allez dire, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui est le sauveur du monde, c'est la même chose que pour Nathanaël. Franchement, si le salut venait de Chicoutimi, crois-tu pas qu'on le saurait déjà? Et c'est le cynisme. C'est la méfiance. Et en plus, il me semble quand même que les chrétiens sont coupables de choses qui se sont passées dans un passé pas trop lointain. Et donc, vous êtes vous-même complice, puisque vous appartenez à la même tribu. Oui, alors là, ça s'empire, quoi. Mais il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que si vous persévérez, un peu comme Philippe et Nathanaël, finalement, les gens s'attachent à vous, tu vois, et puis peut-être ils ont une forme de méfiance par rapport au christianisme en général, mais toi t'es quand même ok, t'es bizarre, mais t'es ok. De toute façon, t'es mon colocataire et je peux pas faire autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand même, je vois que t'es intègre et puis que t'as quand même pas les idées à l'envers et puis t'es quand même pas pédophile, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, j'ai pas vu. Donc, on se dit, il y a une forme de confiance qui est là. Et puis tu te dis, bah, c'est super, il va se convertir. Non, on est au premier seuil. Hein. Il y en a combien ? 5. Ok. C'est-à-dire qu'il est là, et puis là, il monte ici. Et tout d'un coup, parce qu'il est en confiance, il passe au deuxième seuil. Le deuxième seuil, c'est de la complaisance à la curiosité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est en confiance qu'il va être curieux. D'accord ? Si le premier seuil, c'est le défi sociologique, parce que c'est la sociologie dans laquelle on vit. Le deuxième défi, c'est le défi métaphysique. C'est-à-dire que il est convaincu que si Dieu existait, on le saurait et ça changerait les choses. Deux citations, une de Sartre, une de Camus. Qui c'est qui les lit ? Vas-y. Alors ça, c'est énorme. L'existentialisme est un humanisme, c'est un petit livre qui continue à être un best-seller en France. Je dirais, il est dans le top 10 des ventes chaque année. Chaque année, il séduit. Et je dis, Sartre, là, en fait, il va dire de manière très décomplexée ce que beaucoup de gens pensent. Et l'erreur, ça serait de penser que Sartre, du coup, quand il dit ça, eh ben, il promeut l'athéisme. C'est pas du tout ce qu'il dit. C'est-à-dire que vous, dans un élan d'apologétique classique, vous allez convaincre votre colocataire que Dieu existe. Et puis à la fin de la démonstration, il fait « Ok, et ?» Ben non, mais c'est quand même un truc de fou, quoi. Ouais. T'as-tu acheté des pizzas pour ce soir ? Tu dis « Je viens de passer 6 mois à démontrer l'existence de Dieu et il veut manger des pizzas ce soir. C'est quoi ton problème ? » Oui, le problème, c'est pas l'existence de Dieu. C'est que pour eux, de toute façon, même ça change rien. Tu peux te calmer, hein, ça va aller. Ça change rien. Si ça changeait des choses, on le saurait. D'accord. Parce qu'on n'a pas besoin de Dieu pour être heureux. C'est ça, l'axiome du sécularisme. Deuxième citation de Camus dans La Chute. Ça, très belle citation. Ouais. Tu veux la lire, ouais. Le livre La Chute a été un objet de discorde profond entre Sartre et Camus. Puisque quand Sartre a lu le manuscrit, il est allé voir Camus en disant « Mais tu peux pas dire que Dieu existe. » Et puis il dit « Mais je ne parle pas de ça. » Il dit « Si, quand on lit ton livre, il dit, non, je dépeins juste la réalité de la condition humaine. » Et j'utilise souvent Camus, en fait, parce que il est pas complaisant. Peut-être Sartre l'est plus, mais Camus va un peu plus loin. Et en tout cas, là, sur cette citation-là, il a été piqué par Jésus. On le sent, hein. Quand il dit, pendant 3 ans tout juste, ça ne s'appelle pas de la religion. Il parle de qui, là ? Il parle pas de Jésus, il parle de celui qui a dit à Nathanaël de plus grandes choses. Tu verras. Suis-moi. Je trouve cette citation de Abdennour Bidar absolument extraordinaire. C'est un philosophe musulman. Il dit « Nous étouffons de plus en plus parce que cantonnés dans des univers clos réduits à leur dimension matérialiste, dans lesquels les relations entre les êtres humains sont marquées par un déficit incroyable d'humanité, nous avons fermé la porte de tous les grands horizons d'espérance métaphysique. » Ce que dit Charles Taylor, c'est que en fait, on vit dans une espèce de cube qui va appeler ça le cadre immanent, et c'est suffocant parce qu'en voulant continuer à supprimer tous les horizons en disant mais de toute façon c'est ça n'existe pas et puis la vraie religion n'existe pas, on se retrouve finalement à être prisonnier de ce propre narratif de l'incroyance et on cherche des espaces pour pouvoir respirer. Vous savez que quand il y a eu le premier confinement en France, 75% des étudiants ont consulté un médium. 75% des étudiants ont consulté un médium. Pourquoi ? Pour deux choses. Un, savoir s'ils devaient continuer leurs études. Ou deux, savoir s'ils devaient changer de carrière. 75%. Est-ce que j'ai dit 75? C'est beaucoup, hein. Et quand quelqu'un, tout d'un coup, se tourne vers le transcendant, ben, encore une fois, dans une sociologie de la méfiance, on se dit, c'est bizarre. Et du coup, se convertir implique de faire reconnaître ses choix comme éloigné d'un engagement sectaire. Là où, pour vous, aller à l'église évangélique, c'est super facile, quand vous allez dire à votre collègue, viens voir, pour lui, il pense qu'il va mettre les pieds dans une secte. C'est tout aussi facile pour lui de venir à l'église avec vous dimanche que pour vous d'aller avec un musulman à la mosquée. C'est exactement la même chose. Si votre collègue qui est musulman dit « Tu viens à la prière vendredi », il fait « Tu peux-tu garder tes chaussures ou il faut que tu les enlèves ?» Tu réfléchis deux fois. Hein. Tu dis « Est-ce que si je rentre dans la mosquée, est-ce que je vais perdre ma foi ? Est-ce que Jésus va approuver que j'aille à la mosquée ?» Tu vois ce que je veux dire ? Dans ta tête, déjà, c'est compliqué. Mais c'est la même chose. Hein. Quand tu invites un collègue à l'église, pour lui, c'est tout aussi violent que pour toi d'aller à la mosquée. C'est pareil. Hein. Dans ma vie, j'ai implanté des églises. Je rencontre une dame un jour, elle me dit « J'ai mis 3 fois pour venir à l'église. » J'ai dit « C'est bien, bienvenue. Hein. » Elle me dit « Non, je vous explique, j'ai mis 3 semaines pour venir à l'église. » Bon. Et la première fois, en fait, je me suis garé sur le parking. Et puis je suis reparti. La semaine d'après, je me suis garé sur le parking. J'ai pris une grande respiration. J'ai fait le tour du pâté de maison. Je suis passé devant votre église et j'ai continué. Je suis rentré dans la voiture, je suis parti. J'ai dit, il y a du progrès. J'ai dit oui. 3e semaine, je me suis garé. J'ai fait le tour du pâté et j'ai refait le tour du pâté. Et je suis repassé pour la 3e fois devant votre porte et je me suis dit, allez, vas-y. Et je ne sais pas pourquoi je suis rentré. 3 semaines. 3 semaines. Une fois que les gens sont curieux, parce que justement dans ces horizons métaphysiques qui sont éteints, ils ont envie de dire, je suis en confiance avec toi et puis je vois que c'est quelque chose qui pourrait me faire du bien. Ils sont assez pragmatiques, hein. Ou alors juste pour qu'ils puissent avoir la paix, parce que ça fait depuis la 1e fois que tu les invites à l'église. Et puis, un peu comme Nathanaël, ils viennent, ils sont curieux. C'est pas parce qu'ils sont en confiance et qu'ils sont curieux qu'ils vont se convertir. 3e seuil, d'accord ? 3e seuil. De fermer à ouvert au changement. C'est-à-dire que le prochain seuil, c'est le défi psychologique. Dans le sens que la personne est en confiance, la personne peut être curieuse de manière intellectuelle en se disant « Oui, bah, je vais venir à l'église avec toi, on verra ce que ça donne. » Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont ouverts à changer. Oui. Ils sont en confiance, ils sont peut-être curieux, mais leur attitude, c'est de dire « Pas pour moi. Enfin, » un petit peu comme l'histoire de Christelle, où tu vas dans ce rassemblement et puis tu te dis « Oui, bon, bah, c'est bien, non, c'est, mais, ouais, enfin, pas pour moi. » quoi. Et puis tu te mets au fond de la salle. D'accord ? Parce que pour toi, c'est pas assez rationnel, c'est pas, puis t'es cartésien, et puis finalement, t'es assez heureux, hein. Enfin, tu es venu pour faire plaisir, parce que on t'a dit, viens voir. Et c'est le seuil le plus compliqué, celui-là. C'est celui qui prend le plus de temps. Ce que les gens cherchent, c'est à développer une forme de, on appelle ça le DMT, le DTM. Une religion qui inclurait un déisme à la Sartre, où Dieu serait un concept qui existe comme ça, voilà, un peu loin, avec une touche de moralisme, un peu à l'impératif catégorique ancien, et mais qui soit surtout thérapeutique, c'est-à-dire qui nous fasse du bien. Et si quelque part vous pouvez livrer de la marchandise comme ça, ben peut-être que ça pourrait nous encourager à être ouverts au changement. Et je sais qu'il y a certaines traditions chrétiennes qui sont tentées de proposer ça, de proposer un Dieu qui est là parce qu'il t'aime et qui veut prendre soin de toi et que et il veut pas être intrusif dans ta vie. C'est un gentleman. Puis c'est un peu grosso modo comme au McDonald's, quoi. Tu viens comme tu es et tu restes comme tu es quand tu sors, quoi. Mais ça c'est pas l'évangile qu'on proclame. On est d'accord. Jésus dit, ben suis-moi et puis. Et puis, si tu veux me suivre, tu prends ta croix. Et puis, tu vas mourir. Mais après, c'est bien parce que tu peux vivre. Voilà. Celui qui veut me suivre et qui veut donner sa vie et qui la perdra, alors il la trouvera. Tu vois, c'est hyper paradoxal. C'est aux antipodes de ça. C'est, Jésus te dit, ben, c'est quand tu perds ta vie que tu la gagnes. Et en quoi ça me fait du bien, exactement? Juste un petit point de vigilance par rapport à ça. Pourquoi est-ce que ce seuil psychologique est tellement complexe? Nous, et ça serait une grosse erreur, on pourrait partir du principe que l'objectif de changer de religion, de passer de l'humanisme autosuffisant à passer au christianisme, c'est une histoire de comportement. D'accord? C'est de l'éthique. Grosso modo, il faut que tu arrêtes de boire de la bière. En tant que colocataire, c'est insupportable. Donc je t'amène à l'église pour que tu arrêtes d'être alcoolique. D'accord? Parce que Dieu t'aime. Dieu voulant, ce n'est pas l'évangile que vous promeuvez, même si dans la pratique, c'est quand même intéressant qu'il arrête de boire. Nous, en tant qu'évangélistes, on dit non, il faut quand même qu'on l'alerte sur, non pas seulement l'éthique, mais sur la croyance, la théologie. En fait, ce que tu crois n'est pas vrai. Ce que tu crois n'est pas vrai. Jésus peut naître à Chicoutimi et changer le monde. Je vais te le prouver. Amen. Voilà. Donc, et ça devient une battle, en fait, de dire pourquoi est-ce que tu crois que Chicoutimi mais les prophètes ont dit que Chicoutimi c'était quand même en Juda et donc ça qualifie. Ouais. Nous souvent on aime bien faire de l'évangélisation comme ça avec des battles, tu vois. C'est de prouver l'existence de Dieu. Le problème c'est que si vous allez trop dans ce jeu-là, vous risquez de les perdre. Pourquoi ? Parce que c'est pas le problème de la croyance qui est le problème. En fait, ça se passe à ce niveau-là. Ça se passe au niveau de l'autorité. Très rapidement. Si moi je suis musulman, et toi tu es évangélique, d'accord ? Et tu viens me dire que Jésus est fils de Dieu, alors que pour moi il ne l'est pas. D'accord ? Et que tu continues à me dire que tout ce que je crois en fait par rapport à Jésus est faux. T'es pas seulement en train juste de remettre en question ma croyance. T'es en train de me dire que mon père, et son père, et mon imam, et mon grand-oncle, qui d'ailleurs est très très copain avec mon grand-père, et qui en plus est un gars super sympa, et qui m'a aidé en plus à venir immigrer ici au Canada, que tous ces gens-là, c'est des menteurs. Et ces gens-là, tu les connais même pas? Et tu insultes ma famille en disant que c'est tout ça, c'est des menteurs? Toi, la seule chose que tu voulais faire, c'est prouver que Jésus était fils de Dieu, tu vois. Mais lui, dans sa tête, il est en train de dire qu'on est tous des menteurs. C'est quand même pas possible qu'on soit quand même un paquet de millions de menteurs. Est-ce que même il connaît même les musulmans? Si vous lisez Nabil Kachir sur chercher Allah, trouver Jésus, il décrit en fait ce processus de conversion et comment est-ce que ça a été d'une violence incroyable pour lui de se convertir. Parce que ils sont pas tous dans un contexte de persécution. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas tous salafistes, quoi. Il y a des familles musulmanes qui sont hyper heureuses, même des fois plus heureuses et plus fonctionnelles que les évangéliques. Et donc, nous, souvent, on pense que c'est une question d'argumentation, mais en fait, c'est une remise en question profonde pour eux de l'autorité, de la source de l'autorité. D'accord ? Jésus dit, celui qui est de la vérité, écoute ma voix. Donc, lui-même est une autorité. Et il dit, si tu veux me suivre, tu suis pas juste un credo, tu suis pas juste un kérigme, quand bien même la foi chrétienne est ancrée dans un kérigme. La foi chrétienne est ancrée dans une soumission à une nouvelle autorité. C'est un changement d'allégeance. Et donc, dans ce seuil-là, d'être fermé au changement, à ouvert au changement, on parle bien d'être ouvert à changer d'autorité, à changer de référentiel, à changer de maître. Et ça, c'est flippant. Parce que tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas ce qui s'en vient, tu ne sais pas. Et donc, c'est une rupture qui est profonde, elle est familiale, elle est intellectuelle, elle est, vous voyez, et ça crée. Donc, il faut juste être conscient de cela et être patient. Le quatrième seuil, rapidement. C'est pas parce que les gens sont en confiance, qu'ils sont curieux, qu'ils sont même ouverts à changer, qu'ils vont se convertir. Parce que le réflexe dans la sociologie, ici au Québec et ailleurs, c'est finalement d'imaginer ta propre façon de réaliser ta propre spiritualité. C'est ce que Daniel Hervieux-Léger parle. Chaque sujet est amené à fabriquer lui-même le petit récit qui donne sens à son expérience personnelle. Et ils vont te dire, ah, mais c'est génial, mais écoute, avant de parler de Jésus, je vais aller explorer un petit peu les Védas, et puis j'ai un copain qui fait de la méditation transcendantale, puis j'ai une copine qui est aussi écolo, donc je vais essayer de faire un petit peu un tour. Toi, t'as passé 2 ans à franchir le seuil 1, le seuil 2, le seuil 3, le seuil 4, tu dis ça y est, puis hop, et il part butiner. Il va aller chercher des choses. Alors, toi, tu dis, mais pourquoi est-ce que tu... Et on est frustré, quoi. Mais ça fait partie de l'ère du temps. Bricolage religieux, c'est ça. Et c'est un vrai défi à ce moment-là pour les gens d'explorer vraiment ce que Jésus a à dire. La tendance de fond, c'est plutôt d'aller butiner. C'est pour ça que on vous encourage au GBU de faire des études bibliques avec vos amis non chrétiens. D'accord ? J'ai amené un nombre vraiment incroyable de personnes et j'ai beaucoup formé sur les études bibliques inductives. Avec des canevas de Becky Piepert. Moi, j'utilise beaucoup les 7 signes de Jean. J'ai pas le temps de vous le faire ce soir. Mais si vous tapez les 7 signes de Jean, Raphaël Hansenberger, vous trouverez des prédications là-dessus. Et les 7 signes de Jean, pour moi, c'est super. Pour présenter la personne de Jésus et l'œuvre de Jésus. Le plus vite vous plongez les gens dans la parole de Dieu, le plus vite ils viendront à Christ. C'est-à-dire, si vous êtes coincé à un moment donné dans votre témoignage avec votre colocataire parce que vous avez raconté votre témoignage et puis re-raconté votre témoignage. Le problème du témoignage, c'est que lui, il est là, il vous entend et puis il dit oui, mais c'est super pour toi. Mais moi, je comprends pas. Et puis c'est ton histoire à toi, c'est ton bricolage à toi, c'est pas mon bricolage à moi. Et donc, quand on a fini de raconter son témoignage et qu'on n'a plus rien à dire, ben on sait plus quoi faire. En fait, vous devez apporter dans cette relation une troisième personne. C'est Jésus, quoi. Et comment est-ce que vous invitez Jésus dans cette discussion-là? Ben, vous faites une étude biblique et simplement lui dire, écoute, tu sais, rendu où on en est, on n'a qu'à lire ensemble une biographie de Jésus, on se retrouve la semaine prochaine, et puis au moins tu te fais une opinion pour toi-même. Parce que moi, je t'ai raconté comment moi je le vis. Maintenant, toi, on est à l'université, on aime bien l'intelligence, l'honnêteté intellectuelle, ben, pour toi-même, on va regarder, puis on va se faire un avis. Et puis comme ça, vous faites les 7 signes de Jean, 1 signe par semaine, et puis c'est pour moi, c'est souvent les gens viennent à Christ avant la fin des 7 signes, parce que ils ont rencontré Jésus, et pas juste quelqu'un qui parle de Jésus, vous voyez. Voilà. Enfin, dernier seuil, c'est de mort, la télécommande est morte, d'ailleurs. Voilà. 5e seuil. Si tu peux me mettre le dernier slide. Qui est pour moi le défi. L'ordinateur est mort, tout est mort. On peut plier bagages, on peut éteindre, rebooter tout. Le 5e seuil, c'est la nouvelle naissance. D'accord? C'est la crise. Et c'est le seul seuil, si vous voulez, qui ne dépend pas de vous. Ok? C'est pas parce que les gens sont en confiance, qu'ils sont curieux, qu'ils sont ouverts au changement, et puis qui ont exploré la vie de Jésus avec vous, en faisant les 7 signes de Jean, qu'ils vont forcément venir à Christ. Après, c'est l'Esprit Saint qui fait son travail. L'Esprit souffle où il veut. Et donc, des fois, il faut juste se rappeler que ça prend du temps et l'Esprit Saint est souverain. Je me souviens, j'ai terminé de faire une étude biblique avec un collègue, un copain, et il est venu à la fin, et je lui dis alors, et il m'a dit, non, j'ai pas envie de me convertir. Puis je te dis, c'est quoi cette histoire-là? J'étais hyper déçu. Et puis l'Esprit Saint qui dit, c'est bon, je m'en occupe. Toi, tu as présenté. Moi, je vais m'occuper de l'invitation. Et puis, effectivement, 15 jours plus tard, il m'appelle en me disant je suis nul, je suis un mec, je suis nul, je suis pêcheur, je me déteste, j'ai envie de me tuer. Je dis, non, ça, quand même pas, là. Si, non. T'es où, là? Dans mon appartement! J'ai envie de sauter du premier étage! Oui, mais ça va pas être efficace du premier étage. Hein. Écoute, je viens te chercher. J'arrive chez lui, il est en caleçon. J'ai dit, mais mets un t-shirt au moins. On va pas se convertir en caleçon, ça n'a pas de sens. Ouais, mais je suis nul. J'ai dit, mais oui, mais c'est le sujet. J'ai dit, tu vas m'écrire tout ça sur un papier. Alors il écrit sur un papier, je suis nul. C'est tout. Il continue à écrire, je suis nul. T'as tout marqué? Trois pages. Une grande mare de larmes. Puis à la fin, j'ai dit, ça y est, t'as tout marqué? Oui. J'ai dit, on fait quoi avec ça? Je sais pas. Je dis, on va l'offrir à Jésus. Mais pourquoi il le prendrait? Je dis, oui, voilà, on y est. Et puis l'église n'était pas très loin, donc on est allé à l'église, on avait une grande croix avec des clous. Complètement inconscient d'avoir une croix avec des clous, avec des enfants qui courent partout. Un jour, j'ai eu peur, je me suis dit, un enfant, il va courir. Et... j'ai rencontré Jésus à la croix. Non, mais t'es là, t'es pasteur, tu dis, mais c'est complètement inconscient d'avoir mis des clous. On supprime les clous du bas, on met les clous en haut, la croix, elle fait 3 mètres de haut. On va prendre un escabeau pour aller planter les papiers sur les clous. Et c'est ce qu'il a fait. Il allait planter son papier, là, sur le clou, et il s'est agenouillé, et puis il a reçu le Christ. Ouais. Des fois, c'est juste pas l'heure. C'est pas grave. L'Esprit Saint souffre où il veut. Et à un moment donné, ça se fait. Voilà. Et puis on accueille ça, et puis ça... c'est un processus qui est amené à un point de crise, et qui ouvre un autre processus, qui est la formation de disciples. Ça va ? Cet après-midi, vous allez faire un peu plus d'ateliers in concreto, je crois que sur les cinq seuils, hein, c'est ça Joël ? Donc vous allez avoir un petit peu plus de pratique. Voilà, c'est ça. Merci.